juridique des journalistes. Merci beaucoup, merci. Alors très rapidement, je voudrais réagir à ce que Milos a dit parce que je pense que les avocats jouent un rôle de catalyseur de cette protection. Aujourd'hui, nous voyons que c'est grâce aux avocats que des magistrats peuvent reconnaître ces procédures bâillons. Pour répondre à votre question, avec une approche très pratique, nous avons écouté magistrats, avocats, et il faudrait vraiment avoir une approche multifacette, car pour établir des normes, nous savons que les organisations internationales jouent un rôle important, mais avec le concours des journalistes, des médias et des avocats. Et je voudrais dire que cette procédure d'établissement des normes a des répercussions pour l'établissement de normes au niveau national, au niveau régional. Et nous avons donc une résolution sur la sécurité des journalistes 2022 qui a été mentionnée dans la Cour inter-américaine de justice de 2021. Donc, il reconnaît ces procédures bâillons et des façons très concrètes d'identifier ces procédures bâillons ont pu être énoncées. Donc, nous voyons qu'il y a des répercussions lorsque une action est menée au niveau national, régional et qui peut inspirer donc des tribunaux internationaux, régionaux. Alors, nous savons que différents groupes s'organisent au niveau régional et cela a des répercussions dans l'élaboration de normes avec le concours d'avocats, d'organisations des droits de l'homme, des professionnels de médias, des journalistes, etc. Par exemple, nous avons une coalition en Europe, nous avons des coalitions régionales en Amérique latine qui peuvent identifier les besoins bien précis. Car comme cela a été dit, les contextes juridiques diffèrent les uns des autres et donc c'est pour cela que la riposte doit être placée dans un contexte où les infractions ont lieu. C'est pour cela que ces coalitions régionales, la société civile, les organisations de journalistes doivent travailler main dans la main. Je voudrais également souligner que nous avons besoin d'avocats, de praticiens, parce que vous avez parfois des organisations de la société civile qui ont l'habitude de travailler ensemble, mais les avocats et les magistrats doivent également participer de cet effort. Il y a également des cas de sous-documentation de ces affaires et il nous faut également bien identifier les ripostes appropriées. Car avoir une définition bien claire de ces procédures bâillons. Car sans cela, donc, il peut avoir des inexactitudes, des incorrections dans l'action contre ces procédures bâillons. Ensuite, nous savons qu'il faut un appui financier, car une assistance juridique peut être action fort coûteuse. Alors, nous avons des coalitions qui apportent cet appui, mais il faut peut-être un appui des gouvernements et d'organisations. Donc, apporter une assistance juridique permet à certaines affaires d'atteindre des tribunaux régionaux, et pour cela, il faut une assistance financière. Maintenant, je vais en venir à la deuxième question sur les forces et les faiblesses, les législations et les pratiques en cours. Alors, comme cela a été dit, et peut-être que je vais donc insister là-dessus. Nous identifions très clairement le harcèlement juridique, les procédures bâillons. Nous identifions les expressions de procédures abusives. Nous savons que ce sont les juges et la société civile qui pourront nous dire quelle législation fonctionne de façon efficace. En Costa Rica, par exemple, en ce moment, nous avons une action pour promouvoir les mesures anti-procédure bâillon, mais nous parlons donc beaucoup de ces SLAP, mais il y a également le problème de l'indépendance du système judiciaire qui reste à prouver. Nous avons des affaires relatives au harcèlement judiciaire. Et comme je l'ai mentionné, nous, en Colombie, par exemple, la Cour constitutionnelle est robuste, qui a recours aux normes internationales et permet ainsi d'avoir une bonne méthodologie pour traiter ces cas de procédure bâillon. Il y a également des pratiques qui ont cours aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne. Cependant, elles ne peuvent pas être directement traduites et transposées à notre contexte régional. Et c'est pour cela que chaque contexte doit compter sur les avocats et les magistrats pour mieux adapter leur travail aux situations.